Dans ce journal, on parlera du départ de Gaston Flosse de la présidence de son parti, vous l'entendrez, d'économie avec ses bons résultats et de sport bien sûr avec de la boxe et du surf. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Ça y est Lucie, Gaston Flosse passe la main.
Il a officialisé hier sa démission du poste de président du Amuita Hira. Il a évoqué des problèmes de santé. Il quitte donc ce poste à 93 ans, dont 47 passés à la tête de son parti. Mais pas question de quitter la politique pour longtemps, on l'écoute.
Non, j'ai démissionné que mes fonctions de président, c'est tout. Je suis toujours là. C'est pour la santé, évidemment. Pas de problème. Je continuerai à travailler et je serai là tous les jours.
C'est Bruno Sandras, premier président délégué du parti Orange, qui est chargé d'organiser le congrès du parti qui désignera le ou la prochaine présidente. Ce sera le 28 septembre et la guerre de succession est lancée avec déjà plusieurs candidatures, celle de Pascal Haïti Flosse et Gilda Veicho Fa'atoa. D'ailleurs, selon cette dernière, les femmes ont leur rôle à jouer.
Il ne faut pas oublier que les femmes polynésiennes ont également un rôle important dans la vie politique. Elles ont aussi des compétences. Elles peuvent également manager, elles peuvent également piloter, elles peuvent aussi programmer et proposer des projets politiques qui respectent une vision politique. Et je pense que je pourrais aussi prétendre à cette candidature, c'est une très bonne idée.
Bruno Sandras, lui, refuse de déclarer sa candidature. Pour lui, Gaston Flosse a toujours été le seul et unique président du parti Orange qu'il a créé. Et il l'est toujours, dit Bruno Sandras. À ses côtés, Gaston Flosse est intervenu à ses propos, insistant. « J'ai libéré mon bureau », a-t-il dit. Mais Bruno Sandras assure qu'il n'a pas l'intention de s'y installer pour l'instant. Il dit se focaliser sur l'organisation du congrès.
En ce qui me concerne, j'ai une mission, mais j'ai aussi une très grande responsabilité. C'est d'organiser le congrès. Il va être l'Assemblée Générale du mouvement. Je m'en tiens à la mission qui est la mienne aujourd'hui. Je n'ai pas décidé quoi que ce soit. Parce que si le jour du congrès, on en sort divisé, j'aurais échoué. Peu importe qui va être élu, que le grand gagnant, ce soit le Amuita Hira, soudé, uni, derrière celui ou celle qui sera élu, pour les grandes batailles qui nous attendent.
Pas question en tout cas de changer de nom du parti ou de ligne politique. L'objectif est toujours d'obtenir le statut de pays associé à la France. Pas question non plus de remettre en cause l'alliance Amuitato. Elle a fait ses preuves en envoyant deux députés à Paris et en ratant de peu le troisième siège. D'ailleurs, à ce propos, c'est à cause de Lana Tetuanui qui a, selon Gaston Flosse, foutu le bordel en poussant sa fille en politique.
Fini pour la politique, on passe à l'économie, Lucie, avec ce chiffre.
706 milliards de francs a annoncé hier l'ISPF. Le PIB polynésien bat son record en 2023. Troisième année consécutive qu'il augmente. Un tiers de la croissance provient des exports dans lesquels sont comptabilisées les recettes touristiques. Et c'est la demande intérieure qui porte pour les deux tiers cette croissance. On écoute Nadine Jourdan, la directrice de l'ISPF.
Derrière ce résultat, la demande intérieure contribue pour les deux tiers, donc à peu près 2 points sur les 3. Et puis les échanges extérieurs contribuent pour près d'un point sur les 3 points de croissance. Donc la demande intérieure, elle comprend la consommation des ménages qui représente 480 milliards de francs. Donc c'est le poste le plus important de la création de richesses. Elle a été soutenue par la dynamique du marché du travail, avec un nombre d'emplois en équivalent temps plein qui a progressé de 4% environ.
Une progression d'emplois, mais sauf dans la construction. Ce secteur a été touché par la hausse des prix du foncier, des matériaux et du crédit. Par ailleurs, les entreprises, principalement les grandes entreprises en réalité, ont augmenté de 12% leur volume d'investissement en équipement. Les investissements publics, en revanche, baissent. Ils ont été contraints par la hausse des prix. Ils retrouvent leur niveau de 2019. Et enfin, selon l'IOM, 2024 sera encore une bonne année, avec un faisceau d'indicateurs positifs au premier trimestre, comme un bon niveau de confiance des entreprises et des défaillances d'entreprises en baisse.
Par contre, mauvaise nouvelle en Nouvelle-Calédonie.
Oui, hier, Calin a annoncé un vaste plan social. Covid, tensions sociales, blocage d'aérodromes, les crises successives de ces dernières années avaient plongé la compagnie aérienne dans une situation financière critique. Une procédure de mandat ad hoc avait même été déclenchée fin 2023. Il s'agissait de tenter de trouver un nouveau modèle économique pérenne avec comme objectif un retour à l'équilibre d'ici la fin de l'année. Mais les émeutes ont donné le coup de grâce et parmi les mesures d'urgence pour éviter la cessation de paiement, la compagnie va se séparer d'une centaine d'employés.
En bref, retour à Tahiti avec ses décisions de justice tombées ce matin.
Oui, absent du territoire, un couple de plaisanciers avait laissé en 2023 son voilier ancré à Veirei, dans une zone interdite au mouillage. L'embarcation avait été remorquée et placée sur cale par le port autonome qui avait facturé les propriétaires de près de 870 000 francs pour cette opération. Le couple avait estimé que rien ne justifiait l'action du port autonome et attaqué celui-ci au tribunal. Mais au contraire, sur un emplacement interdit, aucun motif n'est nécessaire pour agir. Et le port avait pourtant même laissé 15 jours aux propriétaires pour quitter leur mouillage. Le tribunal administratif a jugé que le port était dans son droit, donc, et avait respecté la procédure. Et une autre décision est tombée toujours au tribunal administratif, concernant cette fois l'infirmière qui avait tourné des vidéos inappropriées dans l'enceinte de l'hôpital. Le juge a estimé disproportionnée la rétrogradation d'un échelon de l'infirmière et lui a donc donné raison. Elle avait déjà en plus par ailleurs eu d'autres sanctions disciplinaires.
J-10 pour les Jeux Olympiques et la marina de Taupo est prête.
Une petite cérémonie inaugurale a marqué hier la fin d'un chantier de 17 mois. Coût des travaux 393 millions de francs, dont 326 financés par l'État, le reste par le pays. Le ministre des Grands Travaux, Jordi Chan, a salué une infrastructure qui offre le meilleur en termes de sécurité et de normes environnementales, avec notamment des bornes d'eau, d'électricité, un phare époté, des sanitaires, une zone de carénage et surtout une station-service destinée à terme aux pêcheurs de Tayarapu Ouest. Elle sera d'abord réquisitionnée pour les Jeux Olympiques. Le ministre des Grands Travaux, Jordi Chan, a parlé d'un projet d'envergure. Entamé sous la mandature de l'ancien gouvernement, il a été amené à son terme par le nouveau. Même s'il a fallu réadapter le projet du ponton en cours de route, on écoute le ministre.
Par rapport aux études qui avaient été faites avant la mise en œuvre du projet, on a constaté que les sols qui supportent la structure étaient beaucoup plus hétérogènes. Et du coup, il a fallu adapter la longueur de pieux. En fait, il avait fallu doubler la longueur des pieux qui supportent la structure pour pouvoir la construire. Ce qui a fait que, compte tenu du budget qu'on avait, on a dû réduire un peu la longueur du ponton pour pouvoir construire une infrastructure dans le budget qu'on avait.
Les travaux ont permis de doubler la capacité d'accueil sur le plan d'eau, mais aussi à terre. Un terre-plein de 3650 m² a été aménagé. Il offre un espace de vie supplémentaire pour accueillir des véhicules et autres équipements. Et tout ça est joliment décoré. L'artiste Sarah Vio a signé une fresque sur trois panneaux évoquant les liens des Polynésiens avec la nature.
Et on reste dans le surf, Lucie, avec cette nouvelle compétition ce week-end.
Oui, ce n'est pas encore les Jeux. Patience, patience, mais la Horue Mataheina, c'est une compétition pour les locaux et par équipe. Elle se déroulera samedi et dimanche au spot de la Taharu à Papara. C'est la fédération tahitienne de surf qui l'organise avec le partenariat de la cellule Tuaharu Nui. Format choisi, la Tag Team. Autrement dit, les points obtenus individuellement sur les vagues comptent pour toute l'équipe, composée de 6 personnes. On écoute les explications de Sarah Pahapé, la secrétaire permanente de la fédération tahitienne de surf.
C'est festif, c'est en équipe. En même temps, c'est un relais. Donc voilà, c'est une équipe qui sera dans un box et ils auront une heure par série. Et il va falloir se relayer et gérer bien son timing, quoi. Donc c'est vraiment de savoir et de connaître les performances de son équipe et du coup de définir un ordre de passage et à eux de gérer le temps. Ils ont 60 minutes pour chacun faire 2 vagues et le power surfer faire 3 vagues. C'était une histoire de se retrouver autour des valeurs des JO, donc l'amitié, l'excellence, le respect, la performance.
La fédération souhaitait mettre en avant les talents locaux avant de passer aux athlètes internationaux dans quelques jours et bien sûr aussi de faire la fête.
On a des surfeurs locaux aussi qui sont très bons et aussi c'est ouvert à un public local et ça permet au moins à tout le monde de se rassembler, de faire une festivité avec la fédération tahitienne de surf et tous les clubs qui sont en place et tout, voilà, tout le public. Et surtout aussi qu'on a pas mal de nouvelles générations là qui arrivent, là, qui sont incroyables et j'espère qu'ils sont tous inscrits.
Vous venez d'entendre Max Wasna, président de la Fédération tahitienne de surf. Tous les surfeurs vont pouvoir montrer de quoi ils sont capables, car chaque équipe doit présenter au moins 2 disciplines. Le surf, bien sûr, mais il y a du choix aussi avec le longboard, le bodyboard et le bodysurf. De quoi avoir du joli spectacle.
Sport encore avec cette collection de médailles en boxe.
11 médailles d'or, 8 d'argent et 3 de bronze. Un beau palmarès pour les Océanias de boxe jeunes qui se sont déroulés début juillet. Et de quoi négocier une aide à l'International Boxing Association pour l'association locale présidé par Tahoeti Nena. Il espère avoir des financements pour emmener les juniors océaniens médaillés d'or aux mondiaux.
J'ai une réunion avec la Fédération internationale. Ça sera l'occasion pour moi de voir si on ne pouvait pas avoir un soutien financier pour soutenir tous les médaillés d'or de l'Océanie pour participer au championnat du monde junior à Monténégro à la fin du mois d'octobre. Donc, ça va être la deuxième étape, bien sûr, pour nos meilleurs jeunes d'Océanie. Ça sera l'occasion également de montrer au monde entier que le niveau d'Océanie a bien progressé.
Et l'attention se tourne aussi désormais vers les Océaniens élites hommes et femmes prévus pour novembre. Ces championnats ouvriront la porte à la Coupe du Monde prévue à Dubaï au mois de décembre. Mais surtout, Tahoeti Nena veut professionnaliser les boxeurs et espère obtenir les financements de l'International Boxing Association pour monter un centre d'entraînement à Tahiti. Les champions de quartier, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut se hisser au sommet, a-t-il dit à Tahiti Info.
Et on termine ce journal, Lucie, avec cette information étonnante.
Oui, elle nous vient des Nouvelles Calédoniennes qui ont publié cet article de l'agence France Presse. Le corps d'une baleine à bec de travers, c'est son nom, a été trouvé sur une plage au sud de la Nouvelle-Zélande. C'est une espèce très rare, l'un des grands mammifères les plus méconnus des temps modernes. Elle n'a encore jamais été observée vivante et on ne sait quasiment rien d'elle. Le corps de la baleine, un mâle selon les scientifiques, repose désormais en chambre froide. Des échantillons de son ADN ont été envoyés à l'université d'Auckland pour des analyses et pour confirmer son identification. Voilà, c'est terminé pour ce journal. Retour de l'information à 16h pour votre flash.
Merci beaucoup Lucie pour les informations. On passe à la météo sur Radio 1.